dans la présence de Dieu. On est content d'apprendre de plus en plus à connaître chacun de vous. C'est un plaisir, un privilège de se rassembler entre frères et sœurs. C'est merveilleux. Ce matin, on va parler d'espérance. Parce que vous allez apprendre un petit peu plus à me connaître. Moi, aussitôt que la neige fond, puis que le printemps s'en vient, je suis plein d'espoir. Puis là, je tourne en rond, j'ai hâte la neige fonde, j'ai hâte de monter mes affaires dehors. Puis là, j'ai fait mes semis de tomates. Hein? Puis là, à tous les matins, je m'en vais voir mes semis de tomates, mes semis de piments, puis j'ai hâte que ça pousse. Puis là, j'espère que mes semis vont être beaux. J'espère que je vais avoir une belle récolte. J'espère qu'il va faire assez soleil cet été. J'espère qu'il ne mouillera pas trop. J'espère. Ma femme, elle me trouve tannant. Tellement j'espère. Mais espérer, ce n'est pas assez. Parce que l'espoir, des fois, ça peut être déçu. T'sais, espérer, ce n'est pas juste assez. T'sais, je peux espérer que mes tomates vont être belles, mais même si Fred, la marmotte du Québec, a vu son ombrage, puis elle a dit qu'il va y avoir un printemps tardif, puis j'ai semé mes tomates plus tard, ça ne veut pas dire que je vais avoir une belle récolte pareille. Puis si je me fie à Météo-Média, pour la température, ils ont déjà annoncé un été, il ne sera pas trop pluvieux, mais des fois, on ne le sait pas, eux autres, des fois, 24 heures d'avance, c'est jamais pareil. Il n'y a pas de promesse ben là-dedans. Fait que les espoirs, il y a beaucoup d'inconnus dans les espoirs. Hein? Il y a beaucoup d'inconnus. T'sais, les gens aujourd'hui, des fois, ils mettent leur espoir en leur conjoint. Ils mettent leur espoir en leur famille. Ils mettent leur espoir en leur job. Mais il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Des fois, le conjoint n'est plus là. Des fois, la famille, il te fait défaut. Des fois, la job, ta père. Il n'y a pas bien de promesses à travers tout ça. Il n'y a pas bien d'espoir. Un jour, il y a un homme, il a dit, « Vivre, c'est enterrer nos espoirs. » C'est pas mal pessimiste, ça. Hein? C'est pas mal pessimiste. Les gens, aujourd'hui, ils voient l'avenir sombre, on dirait. Ils voient l'avenir lourd. Ils voient l'avenir pesant. Parce qu'ils mettent leur espoir dans l'espoir. C'est ça. L'espoir des jours meilleurs. Mais l'espoir des jours meilleurs, on dirait qu'on ne voit pas ça bien. Fait que ce matin, je voulais regarder quelque chose. Je voulais regarder la différence entre l'espoir puis l'espérance. Fait que j'ai sorti quelques définitions. L'espoir, c'est le sentiment d'attendre quelque chose de meilleur qui va arriver. Hein? L'espoir, dans le fond, c'est un sentiment. C'est le sentiment d'attendre quelque chose de meilleur qui va arriver. Les gens, ils ont de l'espoir. Mais l'espoir, c'est pas vraiment assez. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent arriver qui peuvent décevoir ton espoir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, puis que ton espoir, elle va être déçu. Ton espoir, elle va en manger une claque, comme on peut dire en bon québécois. Hein? Puis là, les gens sont déçus. Mais l'espérance, c'est quoi l'espérance? L'espérance, contrairement à l'espoir, c'est le fait d'avoir la certitude que la chose attendue va arriver. Amen. C'est toute une différence. Moi, je n'ai pas la certitude que mes tomates vont être correctes. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans, mais pas grande espérance des fois. Tout dépendamment comment je les ai semés, comment j'ai mis d'engrais, si ma terre est bonne, si je les arrose correctement. Hein? Il y a beaucoup de choses. Mais tandis que dans l'espérance, n'est pas un sentiment, c'est un fait. C'est le fait d'avoir la certitude que la chose attendue va arriver. Amen? Une autre définition que j'avais lue, il disait « L'espérance, c'est une corde qui nous relie à une vérité qui n'est pas encore vécue. » Amen? Ça, c'est bon. Hey, là, j'avais lu ça, j'ai dit « Hey, c'est bon ça. Hein? » Je me bénissais moi-même. C'est une corde qui nous relie à une vérité qui n'est pas encore vécue. Amen? Ça, c'est un espérance. Ça, c'est pas l'espoir qu'il va arriver quelque chose. C'est « ça va arriver, oui et amen ». L'espérance, pourquoi? Parce que l'espérance s'appuie sur des promesses de Dieu qui ne sont pas un espoir, mais sont « oui et amen ». Parce que cela va arriver, parce que Dieu le dit. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Mais parce que ceux qui viennent de mercredi, j'avais commencé à penser à ça. Tu sais, vous venez de mercredi des fois, puis j'avais parlé des Thessaloniciens. Amen. Puis les Thessaloniciens, Paul les louait pour trois choses. Il leur disait, rappelez-vous de l'œuvre de votre foi, du travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Hein? Paul les louait pour la fermeté de leur espérance. Les Thessaloniciens, autant qu'ils étaient fermes dans l'Église, il n'y avait pas grand-chose, mais ils étaient fermes dans leur espérance. Paul les dit, c'est extraordinaire. Mais savez-vous quoi? J'étais en train de lire, puis je ne vous l'ai pas dit ce mercredi-là, mais à Thessalonique, ils ont fait des fouilles, puis au 1er siècle, dans l'ancienne ville, ils ont trouvé une tombe que c'était écrit dessus « sans espérance ». Tu sais, les Thessaloniciens, autant dans l'Église, eux autres, il y avait une espérance, autant ceux dans le monde, ils sont morts là, sans espérance. Puis l'autre jour, je m'en allais dans mon auto, en allant travailler, puis j'écoutais la chanson de Carl Tremblay, tu sais, des cow-boys fringants, là, il est décédé, le dernier show. Là, j'écoutais ça, puis ça dure 7 minutes, quelque chose. Puis là, lui, là-dedans, il dit qu'il a fait une vie. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il a eu plus de fun que toutes nous autres. Puis que pour lui, le ciel et l'enfer, c'est des conneries. Puis il dit, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas rien d'autre bord. Puis là, il finit sa chanson. Il dit, je vais sortir par la porte d'en arrière pour me jeter dans l'univers. Aucun espoir, aucun espérance. Moi, j'écoutais ça 7 minutes quelque chose. Y a-t-il une chanson qui est plus déprimante que ça? Aucune espérance là-dedans. Ben moi, j'avais le goût d'appeler et de dire, ben moi, je ne sortirai pas par la porte en arrière pour me jeter dans l'univers. On va sortir par la porte d'en avant pour vivre au ciel. Amen. Aucune espérance. De plus en plus, les gens autour de nous autres disent, on va jeter ça dans l'univers, puis on verra. Ça va revenir. Ayez vaste l'univers. Si tu attends qu'il revienne, des fois, tu as le temps de mourir 10 fois avant que ça revienne. La semaine passée, on est allé au salon funéraire. Moi et ma femme, il y a une de ses tantes qui est décédée. Puis c'est une place où il y a, c'est comme en rond, puis il y a plusieurs places où il y a des morts qui sont exposés. Puis là, on était dans un de ceux-là. Puis là, de 6h à 9h, on arrivait là, puis tout le monde jase de leurs affaires, de la famille, des ci, des ça, ça fait des jokes, des blagues. Personne ne regardait le mort. J'ai vu une ou deux personnes aller voir la lune, puis tout ça. À 9h-5, la fille qui travaille au funérarium arrive, solennelle au maximum, à l'une notre père, c'est le gars à côté de moi, il dit, elle ne sait même pas par cœur, elle lit. Puis là, la fille de la défunte a dit a une pensée pour sa mère, dans le fond, qui est un cri du cœur, elle, parce qu'elle a perdu sa mère. Mais on n'a pas su. Avant, au moins, il y avait un service funéraire, puis si les gens ne croyaient pas trop en Dieu, au moins, ils faisaient assemblée. Mais aujourd'hui, ça ne fait même plus assemblée de rien. Ça ne croit plus à rien, donc on ne fait rien. Hein? On ne fait plus rien. Fait qu'il n'y avait plus rien. Moi, j'aurais aimé ça savoir que si la madame avait une espérance, qu'est-ce qu'elle a vécu. Là, en sortant des lieux, j'ai dit à ma femme, je veux jamais que tu m'enterres de même, je reviens. Je veux que les gens sachent que j'ai une espérance. Qu'on a une espérance, que où je suis rendu, que je ne suis plus là, mais je suis là. Puis je suis vivant encore. Hein? Puis je suis ressuscité. On a une espérance de vie éternelle. Paul dit, Christ est ressuscité. Puis si Christ est ressuscité, on ressuscitera aussi. Hein? Parce que Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Puis ça continue, il va dire, ressuscité, etc., etc. Nous, on espère une vie éternelle. Colossiens 27, ça dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Hébreux 10, 23, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait la promesse, mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Fait que je vous ai parlé d'espoir, je vous ai parlé d'espérance, mais la Bible va plus loin que ça maintenant. Des fois, elle va plus loin que ça. Des fois, on a besoin de... On a besoin d'espoir. Oui, mais Thomas, j'ai beaucoup d'espoir. Mais pour ma vie spirituelle, j'ai de l'espérance. Mais des fois, il y a des certaines situations où on a besoin d'encore plus que l'espérance. On a besoin d'espérer au-delà de toute espérance, la Bible nous dit. Hein? Espérer contre toute espérance, je ne l'ai pas mis, je l'ai-tu mis au tableau? Espérer contre toute espérance, ça dit vouloir en dépit de tout, croire que l'inespéré, l'impossible, l'invraisemblable peut encore arriver. Amen? Espérer en dépit de toute espérance. J'avais sorti un verset avec ça, Romains 4, 18, ça dit, « Espérant contre toute espérance, il crut, on parle d'Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Dans Genèse 18, l'ange apparaît à Abraham, il dit, « Toi, une postérité d'Abraham. » Abraham, il y a 99, Sarah, 80. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ça ne va pas bien pour la postérité. Hein? Ils n'ont pas encore d'enfants. Fait que l'ange dit, m'a passé l'année prochaine, puis tu as un enfant. Sarah, Harry, on peut-tu comprendre quoi qu'il rit? Hein? J'aurais ri, moi aussi. Mais il a cru, il l'a cru. Puis parce qu'il l'a cru, Dieu l'a accompli. Espérer au-delà de toute espérance. C'est une situation sans espoir que si Dieu n'agit pas, c'est fini. Que si Dieu n'agit pas, il n'y a pas d'espoir. Puis il y a des situations dans nos vies où si Dieu n'agit pas, il n'y a pas d'espoir. Et on a besoin des fois de croire au-delà de toute espérance. Mais je ne voulais pas vous parler de l'histoire d'Abraham ce matin, espérer au-delà de toute espérance. Je voulais vous parler de Jérémie. Vous allez me dire que j'aime le livre de Jérémie. Jérémie 32. J'aime cette histoire-là. Je vais vous lire quelque chose. Jérémie 32, le verset 2 à 5, ça dit, « L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison. » Le roi de Babylone, il y a eu deux déportations. Il y en a eu une en 597 avant Jésus-Christ, puis il y en a eu une en 586. Ça veut dire pendant 10 ans, là, il y a eu deux déportations. Fait que là, la deuxième déportation, le roi de Babylone est tout autour, puis il entoure Jérusalem, puis il n'y a pas d'espace pour sortir de là. Puis Jérémie est dans le cours de la prison. Savez-vous pourquoi il est en prison? Parce que lui, il prophétise, il dit au roi, il dit, « Hey, roi, il faudrait absolument se rendre aux Babyloniens, parce que si on se rend aux Babyloniens, ils vont nous laisser la vie sauve, puis ils ne détruiront pas Jérusalem. Ça fait qu'il faudrait se rendre. Mais tous les autres prophètes, eux autres, les prophètes qu'il y avait dans la cour du roi, eux autres, ils disaient tous, « Non, 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 roi Sédécien, Dieu va nous délivrer. Dieu va nous délivrer. » Un seul prophète qui disait la vérité, mais lui, il disait, fait qu'il disait qu'il fallait se rendre. Mais les autres disaient, « Dieu va nous libérer. » Fait qu'ils ont enfermé Jérémie dans la prison. C'est drôle, pareil, hein? Celui qui dit la vérité, on l'enferme en prison. Hein? On l'enferme en prison. Mais ça nous montre une chose aussi. Prêcher la vérité dans un monde déchu, ça ne veut pas dire qu'on va être écouté. Hein? Ça fait que des fois, on a beau avoir la vérité, ça ne veut pas dire que les gens vont nous écouter. Puis deuxièmement, juste dans ce petit court verset-là, la patience de Dieu. Dieu, il est patient. Hein? Le royaume de Juda, il a existé de 931 à 586, ça veut dire pendant 345 ans. 345 ans de patience de Dieu, que Dieu disait au peuple, « Arrêtez de pécher. » « Occupez-vous des pauvres et des orphelins au milieu de vous. Arrêtez de vous enrichir aux dépens des pauvres, puis faites attention à ceux qui sont au milieu de vous. » C'était ça le message. Puis pendant 345 ans, ils n'ont pas écouté. Ça a commencé, Isaïe a commencé à le dire. Puis là, Jérémie, lui, ça faisait 40 ans qu'il lui prophétisait ça. Puis quelqu'un qui lit un peu Jérémie, là, pendant 10, 12, 15 fois, je pense, a dit, « Je vous ai parlé dès le matin, vous n'avez pas écouté. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé. » La patience de Dieu. Dieu, il est patient. Amen? Dieu est patient. Puis des fois, il est patient avec nous autres aussi. Moi, je pense que Dieu est bien patient avec moi, des fois. Moi, je m'aurais donné 2-3 tapes en arrière de la tête bien souvent. Mais Dieu, il est patient. Dieu est patient. Dieu, il prend son temps. Dieu, il prend son temps. Dieu, il est patient. Puis, j'écoutais aussi, c'est Sédécios qui était le roi. Sédécios, lui, il a mis Jérémie en prison. Mais Sédécios, de temps en temps, il faisait venir Jérémie, puis il disait, « Hey, Jérémie, qu'est-ce qu'il dit Dieu? » En secret, au moins 3-4 fois, vous lirez le chapitre 38-39, 3-4 fois, il fait venir Jérémie et il dit, hey, « qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? » Puis là, Jérémie, il disait ce que Dieu disait. Mais il ne voulait pas l'écouter. Pourquoi il ne voulait pas l'écouter? Parce qu'il était un roi qui était faible. Puis la Bible a dit, « La crainte des hommes tend un piège. » Puis des fois, des fois, on sait ce que Dieu veut, puis on sait ce que... Mais des fois, à cause des hommes, on n'écoutera pas. Des gens n'écoutent pas à cause des hommes. Il y a un de mes frères qui il avait fait une tentative de suicide, puis sa femme, elle m'appelle, puis elle dit, « Michel, voudrais-tu aller lui parler? » Elle m'a dit, « On ne peut pas rentrer à l'hôpital, on n'a pas le droit, parce que c'était une tentative de suicide. » Non, non, je dis, « Viens, on va y aller. Dieu va ouvrir la porte. » Puis on est allé, puis Dieu ouvre la porte, on a parlé à mon frère. Puis quelqu'un qui vient tenter de se suicider, il ne cache rien parce qu'il n'y a plus rien à cacher, tu vois, dans son ombre directement. Puis j'y parle, puis j'y parle de ça, tu sais, du Seigneur. Puis, il dit, Michel, il dit, je suis content pour toi. Il dit, je suis bien content que tu fasses cette vie-là, puis toute la quête. Mais il dit, moi, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Ouais, mais il dit, je ne peux pas faire face à ce que les gens vont en penser. La crainte des hommes t'a un piège. La crainte des hommes t'a un piège. Fait que là, on voit ici, si on continue à lire, dans la cour, il était dans la maison du roi, prisonnier. Ah, OK. Et il lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici, je livre la ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. » Une situation désespérée, une situation sans espoir, pas d'espoir, Tu es enfermé, le roi de Babylone tout autour, il y a zéro espoir-là. Là. Puis là, il est en famine, ça faisait un an à peu près que le siège de la ville durait. Il ne savait plus quoi vraiment faire. Ça fait que tout d'un coup, Jérémie, il reçoit une parole de Dieu. Ah, je n'avais pas fini de lire. Bien, ça disait juste qu'il ne s'échappera pas, puis il va emmener ses destinataires, etc., etc. Là, tout d'un coup, Jérémie est là. Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Ananéel, fils de ton oncle, Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Allez, mettez-vous à la place de Jérémie. Tu es en prison parce que tu dis la vérité. Là, c'est la grosse famine dans la ville. Puis là, Dieu te parle et dit, « Achète un champ. » Moi, j'aime ça faire des jeux de mots. J'aurais certainement dit à Dieu, « Seigneur, es-tu dans le champ? » Hein? « Achète un champ. » Qu'est-ce que ça rapporte dans le moment? D'autant plus que le champ, Anatote, il était à 10 km de la ville, puis là, dans le moment, c'est-tu inutile d'acheter ce champ-là? Hein? Parce que les troupes sont dessus. T'sais? Achète un champ. Hein? Au milieu d'une situation désespérée, Dieu dit à Jérémie de faire une chose qui semble complètement insensée. Complètement inutile. T'sais? Jérémie, vous lirez dans le chapitre 32, là, il prie Dieu. Il dit, « Seigneur, puis là, je le comprends, ce prière-là qu'il dit. Il dit, « Seigneur, je comprends que le peuple a péché. Je comprends que là, ils payent la conséquence de leurs actions. Je comprends tout ça, Seigneur. » Mais il dit, « Là, néanmoins, tu me dis, « Achète un champ. » Il y a une grosse interrogation là-dedans avec un point de... Hein, une grosse interrogation. Puis là, Dieu, il l'aime, Jérémie. Puis il répond. Il va répondre à Jérémie, puis il va dire, « Jérémie, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Puis cette parole-là, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » C'est la même parole qu'Abraham avait eue dans Genèse 18 quand l'ange a parlé, puis il a dit, « Tu auras une postérité. » Abraham avait dit, « Hein? Une postérité? » L'ange a dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » La même parole. Puis là, le Seigneur va y répondre sur tout le chapitre 32. Il va dire à Jérémie, « Je les aime. C'est mon peuple. Oui, il y a des conséquences pour leurs actions. Oui, il est en train d'arriver le siège de Jérusalem, mais je vais les ramener parce que je vais leur faire du bien, parce que c'est mon peuple. Puis, oui, ils sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait, mais je suis leur Dieu. » Amen. Dieu va répondre. Parce que, autant les promesses de Dieu s'accomplissent, autant les jugements de Dieu s'accomplissent aussi. Amen. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça n'arrivera pas bientôt. L'Apocalypse et tout ça, parce que ça tarde, puis il n'y aura pas. Puis les jugements de Dieu vont s'accomplir autant que ses promesses. Puis dans ce temps-là, c'était la même affaire. Ça s'accomplissait autant les jugements de Dieu que ses promesses. Parce que Dieu le dit, puis c'est oui et amen aussi. Mais là, ici, au milieu de l'épreuve, Dieu veut donner une preuve qu'ils n'oublient pas. Une preuve qui est avec eux. Puis il veut leur montrer ça solennellement. Il veut qu'il y ait des témoins. Il veut que ça soit fait dans les règles de l'art. Il veut leur montrer ça vraiment bien comme il faut. Ça fait que là, ça, on va lire ça. Là, Jérémie dit, « OK. Hein? » Ah, je n'avais même pas tourné l'affaire. Excusez-moi, des fois, moi, je perds le fil de mes affaires. C'est qui a dit ça? Ah! Bon, Jérémie dit, « Je reconnus que c'était la voix de l'Éternel. » Il dit, « OK, m'a l'acheté le champ. » « J'ai acheté le champ de Hananéel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesais l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. Je pris des témoins, parce que ça prenait des témoins. Il voulait que tout le monde le sache que ce que Dieu avait décidé de faire. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je leur ai mis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, en présence de Hananéel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour du palais. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Tu sais, ils ont fait ça solennellement, ils ont fait ça correct. Aujourd'hui, ils auraient passé sur le notaire. Hein? Puis ils auraient fait un contrat notarié, tching-tching, ils auraient signé en bas, puis bonjour. Mais dans ce temps-là, les contrats, c'était fait comme ça. Ils signaient, ils cachetaient ça, ils mettaient ça dans des urnes. C'est pour ça qu'ils ont trouvé les rouleaux de Qumran dans des urnes, parce que c'était la manière de faire les contrats dans ce temps-là. Puis ils ont fait ça en présence de beaucoup de témoins. Les Juifs, Baruch, en présence de beaucoup de témoins, pour que tout le monde puisse dire, « Hey, Dieu il a décidé de faire quelque chose. » Puis la conclusion, c'était le verset 15, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Amen. En voulant dire, oui, c'est une situation désespérée, oui, il y a un siège autour de la ville, mais ça ne durera pas toujours, ça c'est la conséquence de vos actions, mais je vais vous ramener dans le pays. Amen. Je vais vous ramener dans le pays, puis on achètera encore des champs, des vignes, et on cultivera encore. Et ici, c'est une promesse de Dieu. Amen. Une promesse de Dieu. Et parce que c'est une promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Amen. Puis ça va s'accomplir quand le roi de Babylone va mourir. 70 ans plus tard, le roi de Babylone va mourir. Puis sous Esdras et sous Zorobabel, il y aura le retour en Israël. Et on achètera encore des champs et des maisons et on cultivera encore nos vignes. Amen. Et ça s'accomplira dans un deuxième accomplissement lorsque dans Apocalypse 18, le gouvernement babylonien, si on peut dire, là, le gouvernement Babylone spirituel va être, anéanti par Dieu, bien, il va y avoir une conversion d'Israël qui va se convertir de tout leur cœur et ils vont redevenir le peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu l'a promis. Espérer contre toute espérance, c'est ça. Même au milieu de la désolation, Dieu se manifeste dans son peuple pour l'encourager, pour leur redonner l'espoir. Parce que Dieu est Dieu. Pour finir ce siège de Jérusalem-là, je reviens à une prophétie que Jérémie avait dit dans Jérémie 29, 10 et 11. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, il y a l'espoir. Oui, il y a l'espérance. Mais des fois, il faut espérer au-delà de toute espérance. Parce que Dieu l'a promis, qu'il sera avec nous. Parce qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Hébreux 6, 11-12, ça nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Héritent des promesses. Des fois, on se met dans des situations où on va vivre la conséquence de nos décisions. Un peu comme Israël, la tribu de Juda, qui ont vécu les conséquences. La déportation, c'était les conséquences de leurs décisions, de leurs actions. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu peut toujours intervenir. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de oui et amen. Et ce matin, j'aimerais ça que les musiciens puissent s'avancer. Ils pourraient nous conduire dans un chant. Espérer. Moi, au printemps, j'ai beaucoup d'espoir, comme je vous l'ai dit. Si vous venez chez nous, vous allez voir comment je regarde mes tomates. Après-midi, je vais certainement en transplanter. Ça, c'est mes espoirs. Mais c'est pas assez. On a besoin d'espoir. Je parlais tantôt de notre société qui est devenue de plus en plus une société qui n'a pas d'espérance. Puis aujourd'hui, ils ne se cachent plus pantoute pour nous montrer qu'ils n'ont pas d'espérance, comme je vous ai dit tantôt. Au salon funéraire, avant, au moins, il y avait un service, puis même s'ils ne croyaient pas, au moins, il y avait quelque chose. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ne se cachent plus pour nous montrer qu'il y a zéro espérance. Il nous chante des chants comme Carl Tremblay. Il va se jeter dans l'univers par la porte d'en arrière pour montrer qu'il n'y a plus rien. Mes frères et sœurs, nous, on a une espérance. Amen. Puis c'est à notre tour maintenant de ne pas se cacher pour montrer qu'on a une espérance. Et que notre espérance est basée sur des promesses. Et que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et qu'il accomplira ses promesses. Et que même des fois dans nos vies, on devra aller plus loin que l'espérance. On devra croire au-delà de toute espérance. Parce qu'il y a juste Dieu qui pourra le faire. Amen. Et c'est cela, ce matin, que je voulais vous amener. Et si ce matin, vous vivez des situations où vous avez besoin d'espérance, et vous avez besoin que Dieu vous rappelle son espérance. Juste venir en avant. Et si vous avez des situations où vous voulez espérer au-delà de toute espérance, venez devant Dieu ce matin. Et Dieu est le Dieu de toute espérance. Et le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou croyons. Quand j'étais jeune, ma femme avait fait 3 fausses couches. Puis là, une année, elle était enceinte de notre fille. Puis, on arrive à l'hôpital parce que ça ne marchait pas du tout. Puis, elle était allergique au lait. Puis, ça coûtait une fortune, le lait qu'il aurait pu y donner. Puis, nous autres, on était des jeunes croyants, pas trop de foi là-dedans, là. Espérer contre toute espérance, ça n'est pas trop ça, là. Mais Dieu est fidèle. Sans qu'on dise rien, il rentre une dame dans Elle dit, signez ici, nous donne des coupons, ça va vous coûter 50 piastres par mois. Ou ça aurait coûté 500-600 qu'on ne pouvait pas payer. 7-8 mois plus tard, on va à l'hôpital. Docteur, regarde ça. Hein? Subvention pour le lait. Il dit, j'ai jamais vu ça à Sainte-Justine ici, de ce temps-ci. Il dit, ça prend des enquêtes, ça prend ci, ça prend ça. Mais Dieu nous a accordé ça gracieusement. Même sans qu'on demande parce qu'on est ses enfants. Et qu'il connaissait le besoin mieux que nous-mêmes. Dieu est Dieu. Soyez bénis ce matin.